15h32 minutes à Boulevard 102.1. Merci d'avoir syntonisé votre radio parler ici à Québec. Plusieurs réactions par texto concernant notre discussion sur les prénoms. Tout ça partait du fait, en fait, que malheureusement, le prénom Kevin est de moins en moins populaire. Mais plusieurs personnes, c'est ça qui nous écrivent pour nous dire, tu sais, il y en a deux à ma job qui s'appellent comme ça. Ça fait bizarre de leur parler en maudit. Ah non, c'est les prénoms qui sont différents. Excusez-moi. Il y en a deux à ma job qui s'appellent Papa. Ça fait spécial parler, effectivement. Hey, Papa! C'est sûr que ça peut être... Il y a besoin d'une petite période d'adaptation quand même des prénoms. C'est ça qui viennent d'autres cultures, d'autres origines aussi. Effectivement, tu sais, tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit il y a trois frères près de chez moi, Trésor, Vérité et Méthode. Ici, les filles trouvent ça vraiment normal. Donc, ils habitent proche de chez eux, un peu comme mes enfants aussi. C'est ça, qui ont des enfants avec des prénoms qui sont différents un peu de ce que nous, on connaît dans notre culture ici. Mais en même temps, je dis notre culture ici, ça fait partie de notre culture ici maintenant aussi d'avoir des prénoms qui sont un peu différents. Merci de nous texter, d'interagir dans cette émission-là. Toujours au 971-1021, vous le savez, c'est votre show à vous aussi. C'est un sujet qui fait jaser beaucoup depuis ce matin. C'est une proposition de Québec solidaire qui veut s'attaquer à la crise du logement en doublant la taxe sur le gain en capital. Donc ça, c'est le profit qu'on fait en vendant un bien immobilier. Le gain en capital sur la vente... C'est actuellement à 50 %, mais ce que QS propose, en fait, ça serait que ce montant-là soit imposable à 100 %. Et là, merci à Antonine qui a pris la peine de me l'expliquer comme il faut, tantôt avant qu'on rentre en onde aussi, pour être sûr, justement, que ça soit clair. Parce qu'évidemment, il y a des braquettes d'imposition ici au Québec selon les revenus que vous faites. Si vous vendez un immeuble, je vais l'essayer, OK? Puis tu me corrigeras si je me trompe.
Je t'écoute. Okay?
Donc, vous êtes propriétaire d'un immeuble, d'un duplex, par exemple. Vous le vendez, vous faites un gain de 100 000 $ Sur ce 100 000 $-là, il y a 50 % de ce montant-là qui devient imposable, mais selon votre braquette d'imposition.
Et voilà.
Là, effectivement, à ce moment-là, il faut le calculer différemment parce que si vous gagnez déjà 100 000 $ par année, le gouvernement va calculer que là, tout à coup, vous venez de gagner 150 000 $ par année parce qu'il y a un 50 000 $ de plus dans vos revenus. Ça se peut que ça vous fasse changer de braquette ou pas, mais ce montant-là va être imposé selon la braquette d'imposition de votre revenu. Ce que Québec solidaire propose, c'est que le montant total du gain devienne imposable. Évidemment, ça change énormément la donne. On sait que nos collègues un peu plus tôt ont eu la chance de parler avec Mme Gazal justement à ce sujet-là. L'entrevue qui est disponible dans la section réécoutée du BLVD.fm. Et nous, en ce moment, on a avec nous le président de l'Association des propriétaires du Québec, M. Martin Levasseur, qui n'est plus là. T'en as un petit peu. Bon, je vais essayer de le rappeler. Ce sera pas long. Donnez-moi une petite seconde. Je lui parlais, je l'avais au téléphone il y a deux secondes. Donnez-moi un instant.
Hey, pendant ce temps-là, ouais. Je vais vous mentionner une information que Radio-Canada vient de sortir. Puis c'est un peu un secret de polichinelle, mais selon leurs sources, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, va annoncer jeudi matin qu'elle sera finalement candidate dans la circonscription de Trois-Rivières aux prochaines élections. Elle l'avait dit, Trois-Rivières, elle a grandi là-bas, ses parents sont encore là-bas, alors qu'elle, depuis 2022, elle est la députée de Saguenay en Montérégie.
Alors, reprise 2 pour M. Martin A. Messier, qui, je le rappelle, est président de l'Association des propriétaires du Québec. Monsieur Messier, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci, et vous?
Ça va bien. Et avec la nouvelle d'aujourd'hui, en fait, avec la proposition de Québec solidaire, comment vous vous positionnez, vous, au niveau de l'Association des propriétaires du Québec?
Ben, écoutez, on trouve triste que ce type de débat-là ait lieu, en fait, parce que le simple fait d'avoir le débat, même si ça n'arrivera, on ne l'espère pas, ça lance un mauvais message aux propriétaires des meubles locatifs et aux investisseurs. Vous savez, on essaie de convaincre des gens d'investir au Québec dans le logement locatif résidentiel, et le fait qu'on dépeigne une situation très difficile pour les propriétaires en menaçant de toutes sortes de mesures les gens qui veulent investir dans le locatif résidentiel. Ben, ça a l'effet inverse, en fait. Ce qu'on veut faire, d'éviter la restriction du nombre de logements, ce que certains appellent la crise du logement. On veut avoir beaucoup de gens qui investissent. Et là, ben, on leur dit finalement, si vous choisissez d'investir au Québec dans ce véhicule-là, qui est l'investissement locatif résidentiel, ben, vous allez être désavantagé par rapport à un autre type d'investissement, ou le même type d'investissement, mais ailleurs au Canada ou ailleurs en Amérique du Nord, en fait. Donc, c'est un mauvais message, tout simplement.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait décourager des gens qui possèdent de l'immobilier d'avoir des logements locatifs, finalement? Est-ce qu'on se dit, ben là, tant qu'à y être, si on m'étouffe comme ça, ben je vais investir autrement mon argent? Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait même, au contraire, faire baisser le nombre de logements disponibles?
Oui, tout à fait. Le risque est vraiment bien réel. Les propriétaires qui perçoivent que c'est devenu trop compliqué d'être propriétaire de logements, ben ils veulent se départir de leur actif, surtout si on leur dit, ben votre valeur va baisser parce que quand vous allez tenter de vendre, ben il risque d'y avoir une fluctuation dans l'évaluation là, du gain que vous allez devoir payer. Donc, l'impôt, vous allez devoir payer sur le gain. Donc, il y a vraiment une situation qui est problématique. Et puis, bon, en fait, ce matin, il y avait, dans la conférence de presse, il y avait d'autres éléments additionnels, je dirais, qui viendraient baliser là, les droits et les obligations des propriétaires. Donc, c'est un mauvais message. Au Québec, on a déjà un système très restrictif. On a un contrôle des loyers, on a des dommages punitifs pour les gens qui sont de mauvaise foi, qui font du harcèlement. Et on a déjà un système qui est en place, qui est très contraignant pour les propriétaires. Maintenant, quand on parle de multiplier par 10 les amendes, d'augmenter l'impôt payable lors de la vente d'un immeuble, moi, je pense qu'on fait vraiment l'inverse. On fait fausse piste. En fait, on décourage les gens d'investir en immobilier locatif parce qu'on se dit, je vais être un peu comme au Moyen-Âge où je vais être la sorcière qui est pourchassée par tout le monde. Donc, disons-le, pour certains propriétaires, le fait d'être mal vu parce qu'il est propriétaire, c'est vraiment un élément qui fait en sorte qu'il se dit, ben moi, je vais investir à la bourse ou je vais investir en immobilier, mais ailleurs qu'au Québec.
Avec cette proposition-là, on se mettra pas la tête dans le sable, M. Messier, qu'on diabolise un peu les propriétaires d'immeubles. Mais là, je pense plus aux propriétaires qui ont plusieurs immeubles, qui ont plusieurs portes. Est-ce qu'une nouvelle comme celle-là aujourd'hui pourrait créer un espèce d'effet de, je prends l'exemple, un couple qui est propriétaire d'un plex, d'un triplex, sur le bord de la retraite, leur fonds de pension, c'est ça. C'est le bloc, OK? Puis là, eux autres voient cette nouvelle-là sortir aujourd'hui puis disent, « Hey, on n'était pas prêt à vendre encore avant 4-5 ans, mais là, on vend là. On prend pas de chance. » Ce qu'on veut, c'est stopper la spéculation, mais est-ce qu'on pourrait créer un effet spéculatif davantage dans les prochaines semaines, prochains mois avec une nouvelle comme celle-là qui est proposée? Puis ça rentre par texto, honnêtement, avec vous, là, tu sais, c'est Québec solidaire, ils seront jamais au pouvoir, mais pas besoin d'être au pouvoir nécessairement pour proposer des idées non plus puis les proposer à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'une proposition comme celle-là pourrait avoir comme effet d'amener des gens qui sont pas propriétaires de dizaines puis de centaines de portes de se départir plus rapidement de leur bloc et peut-être que ces portes-là se retrouveraient entre les mains de propriétaires de plusieurs portes, justement?
Bien, c'est bien certain, vous savez, pour un propriétaire qui entend ce type d'éléments-là sur la place publique, bien, ça fait réfléchir et ça peut définitivement faire pencher vers la vente de l'actif ou vers la décision d'investir dans d'autres choses, alors qu'on les veut, ces gens-là, comme investisseurs immobiliers, on veut ce type de propriétaire-là. Donc, je crois vraiment que c'est un débat qui est nuisible et qui va, en fait, à l'inverse des intentions là, qui sont proposées voulant stimuler l'investissement, réduire la crise du logement. Là, je pense qu'on fait fausse route, définitivement.
En même temps, c'est sûr, on regarde le prix des logements en ce moment, le manque de logements aussi. Bon, il y a le 1er juillet qui arrive cette semaine. On sait qu'on va avoir plein d'histoires super tristes aussi. Je regardais le prix moyen des logements à Montréal, parce que ça nous frappe particulièrement. À Québec aussi, ça a augmenté, mais à Montréal, entre 2019 et 2025, le prix a bondi, le prix moyen a bondi de 70 %. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on ne stoppe pas la spéculation et les profits à tout vent et les flips et tout ce qui fait en sorte que les logements ne sont pas disponibles et qui coûtent une fortune, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce que votre association a des propositions, des suggestions à apporter qui ne seraient pas là, de taxer encore plus les propriétaires?
Ben, en fait, ce qu'on voit, là, nos coûts de rénovation, de construction ont tout simplement explosé. Et évidemment, ça a un effet direct là, sur le prix du logement. Si on parle d'immeubles neufs, le prix des terrains a explosé également. Tous les frais connexes qui sont reliés au développement immobilier ont tous explosé. Donc évidemment, ça a un effet de percolation important. Là, ça impacte le prix des loyers. Donc C'est un phénomène global. Je dirais que l'hyperinflation qu'on a vécue suite à la COVID, l'inflation qu'on connaît maintenant, bon, pour toutes sortes de raisons, tout ça a un impact parce que c'est relié. On peut pas faire de l'immobilier un vase clos. Là, quand on a un rénovateur qui nous dit, ben moi, je dois hausser mes salaires parce que les gens ont besoin de plus d'argent pour arriver, qui nous dit, ben je dois hausser mes prix parce que les matériaux augmentent, ben c'est difficile d'argumenter parce que tout ça est vrai. Donc, on ne peut pas prendre l'immobilier dans un vase clos puis dire, là, c'est un logement, donc il ne faudrait pas que le prix monte. Malheureusement, on est dans cette roue-là qui vraiment est accélérée depuis quelques années dans l'inflation. Et c'est difficile à contrer. Je pense que globalement, c'est difficile, puis on le voit, là, nos gouvernements tentent de le faire, mais de contrôler tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est au final comment on peut aider le citoyen. Ben, écoutez, les gens qui sont plus démunis, qui sont pas en mesure de suivre cette vague-là inflationniste qui est globale, là, qui touche pas juste le logement, ben il va falloir faire des choix de société, puis voir comment on peut les assister au même titre qu'on doit les assister non seulement pour se loger, mais pour se nourrir également.
Pensez-vous, est-ce que vous auriez été davantage d'accord si cette mesure-là proposée aujourd'hui, parce que ça ouvre un débat, là, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement appliqué, là, Québec solidaire sera peut-être pas au pouvoir l'automne prochain, mais c'est sûr que ça ouvre une discussion. Est-ce que vous auriez été plus ouvert si on s'attaquait, on visait les plus grands propriétaires? Parce que quand on regarde un petit couple pour qui c'est son fonds de retraite, c'est sûr que c'est le cas qu'on met beaucoup de l'avant quand on est contre la mesure. Mais est-ce qu'on aurait pu viser les plus grands propriétaires, ceux pour qui c'est une vraie business, là? T'sais, que c'est pas juste un petit fonds de retraite là, d'un petit couple là, qui a investi là-dedans, là.
Mais en fait, ici, on prend l'exemple des plus grands propriétaires. Quand ils disposent de capitaux, là, comme tout investisseur, ils ont le choix là, d'investir dans le véhicule puis à l'endroit qu'ils le souhaitent. Donc, si on leur dit au Québec, c'est compliqué, ben, ils vont investir leurs fonds ailleurs, au Canada, en Amérique du Nord. Là, c'est mobile, là, on n'est plus captif. Et donc, c'est extrêmement dangereux comme discussion pour ces gens-là aussi. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir là, avant d'amorcer ce débat-là.
Puis, tu sais, effectivement, la crainte aussi de s'attaquer aux plus gros joueurs puis de les faire fuir, effectivement, je pense pas que à long terme, c'est une solution nécessairement intéressante pour notre économie. Moi, j'ai envie de vous entendre, Monsieur Messier. Je vous rappelle, on parle avec Martin Messier, qui est président de l'Association des propriétaires du Québec, concernant cette proposition-là de Québec solidaire de s'attaquer à la crise du logement en doublant la taxe sur le gain en capital, donc le profit qu'on fait en vendant un bien immobilier qui est à 50 %, donc la faire passer à 100 % à ce moment-là du gain total. Le visage des propriétaires doit changer dans les dernières années avec tout ce que vous nous avez mentionné. Tu sais, moi, je me souviens d'une époque. Monsieur Messier, j'ai grandi dans Limoilou, j'habite encore Limoilou. À Limoilou, ben quand on passait d'un appartement, on s'achetait un condo, puis à un moment donné, ben ce qu'on visait, c'était d'essayer d'avoir un duplex puis un triplex comme jeune couple. Pourquoi? Mais parce que les revenus nous aidaient à payer le bien immobilier. Et là, on investissait, puis éventuellement, ben soit on décidait de vendre ça puis de s'en aller dans une unifamiliale, ou sinon, ben on réinvestissait dans un autre duplex ou un autre triplex. Avec l'inflation actuelle, puis avec des nouvelles comme celle-là, vous devez voir le visage des propriétaires changer, puis ça doit être de plus en plus de gros joueurs et de moins en moins de on les appelle comme ça, mais c'est pas péjoratif, de petits propriétaires, de couples ou d'amis qui s'achètent un ou deux immeubles à peine.
On voit encore les petits propriétaires. On a encore un marché au Québec où, contrairement à l'Ontario, là, on a vraiment beaucoup de logements qui sont détenus par de petits propriétaires. Cependant, là, vous avez tout à fait raison, c'est que dans les nouvelles constructions, à la fois les normes de densification qui ont été adoptées par les villes où, quand on construit maintenant, on nous demande de construire sur plusieurs étages là, pour qu'il y ait une densité puis une rentabilité pour la ville. Et donc ça, évidemment, quelqu'un qui voulait s'acheter un triplex dans ces projets-là sont exclus. Donc, quand on voit des logements construits en grand nombre, le nombre de grands immeubles qui livrent beaucoup de logements est évidemment détenu là, par des beaucoup plus grandes sociétés.
Puis, est-ce que, parce que ça, c'est un texto qui est rentré, puis je le trouve intéressant, là, j'ai deux chums qui achètent et investissent un peu, revendent et font des gros profits. Est-ce que c'est plus à ça qu'il faut s'attaquer, d'après vous, M. Messier, les fameux flips? Parce que, en s'attaquant au flip, parce que encore là, c'est quelque chose qu'on vit, nous, notre génération, puis les plus jeunes, là, d'avoir des gros joueurs qui achètent, puis là, je parle pas juste de blocs, des maisons qui les rénovent, puis qui les revendent à 100, 150, 200 000 de plus, ça fait en sorte que le marché est davantage saturé. Nous autres, on se retrouve comme premier acheteur à être pris à la gorge, puis être obligé d'emprunter plus qu'un demi-million aujourd'hui, en 2026, pour se procurer notre première maison. Moi, je trouve ça épouvantable parce que je me souviens d'avoir la discussion avec nos parents, puis de dire, bon, c'est bien, vous autres, vous savez pas c'est quoi payer une hypothèque, vous avez payé votre maison 82 000, mais nos enfants vont nous dire la même affaire. Enfin, t'as payé ta maison 300 000, 350 000, c'est un pet, nous autres, on doit 750, 800. Est-ce que si on s'attaquait plutôt à ceux qui achètent des blocs, qui en font des flips, puis qui revendent au bout d'un certain temps, est-ce que ça serait peut-être plus une solution à ce moment-là qui pourrait être envisageable, puis peut-être plus facile à contrôler pour s'assurer qu'on continue à avoir de l'investissement quand même ici au Québec, puis qu'on ne fait pas fuir les gros joueurs non plus à l'extérieur de la province?
Mais je pense qu'en fait, vous avez raison, il doit y avoir une réflexion qui est effectuée sur ce qui stimule nos gens à vendre leurs immeubles, qui dans certains cas va donner une spéculation. Mais en même temps, on regarde certaines transactions, puis il faut s'expliquer, il y a des gens qui achètent parfois des immeubles où c'est pratiquement déficitaire. Là, si je calcule mes frais, mon hypothèque, mes taxes versus les revenus de loyer, et les transactions se font quand même. Donc ça me rend toujours perplexe, ce type de transactions là, mais je pense que de vérifier là, ce qui motive les gens. Puis on est dans une valse mondiale où les scénarios à la hausse sur le prix de l'immobilier, c'est un peu une donnée mondiale. Je discutais avec un investisseur il y a plusieurs années de ça, puis il me disait ben au Québec vous avez un prix de l'immobilier qui est beaucoup plus bas. Puis globalement, la mondialisation des marchés va faire en sorte que ça va vous rattraper éventuellement. Et on est peut-être un peu dans ça, mais oui, une réflexion qui doit être effectuée, mais on doit éviter là, de lancer un signal qui fait en sorte de désintéresser les investisseurs. Est-ce qu'on doit se questionner sur le prix que les gens sont prêts à payer, sur le mode de financement, sur des incitatifs qui pourraient aider les gens à acquérir pour demeurer dans leurs immeubles? Ça, c'est peut-être des mesures qui sont plus constructives.
Très intéressant, M. Messier. Je le rappelle à nos auditeurs et auditrices qui viennent de se joindre à nous, président de l'Association des propriétaires du Québec, l'APQ, Martin A. Messier, qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Une très bonne fin de journée à vous. Effectivement, tu sais, en étant à Québec solidaire, moi, ce matin, il me semble que je serais allé complètement de l'autre bord. Dans le sens où est-ce que tu es un jeune couple dans la ville de Québec, au Québec, tu veux t'acheter un duplex. Parfait. On a une crise du logement en ce moment. OK, regarde bien qu'est-ce qu'on va faire. Nous, si tu acceptes de prendre ce loyer-là et d'en faire un loyer abordable, ce qu'on te promet, c'est que le gouvernement va payer ta taxe de bienvenue puis tu vas avoir un congé de taxe municipale pendant un an.
Ouais.
C'est ça le coup de main qu'on va te donner. Fait qu'on y va complètement dans l'autre sens. Fait que là, tu convaincs un jeune couple de dire, regarde, on va s'acheter quand même un immeuble, on va quand même avoir un revenu qui permettrait de calculer, mettons, la moitié de l'hypothèque mensuelle. Là. Mettons, parce qu'on fait ça aujourd'hui en 2026, on se magasine des paiements mensuels. Ton hypothèque par mois va te coûter 2 000 $, parfait. Tu as le droit d'avoir un loyer, mais à maximum 1 000 $, qui va payer la moitié de l'hypothèque par mois. Puis à partir de là, ben nous autres, voici ce qu'on te donne comme bénéfice. Ce qui fait en sorte qu'on continuerait d'avoir des petits joueurs, je le redis encore de cette façon-là, mais sans être péjoratif.
De monter encore les taxes. Là.
Ben oui,
les
aussi.
Taxes puis les coûts en général. Puis tu le soulignais, là, c'est vrai que Québec solidaire ne sera pas au gouvernement à l'automne. Ça ne fonctionnera pas de même. Par contre, ce que ça permet, c'est d'avoir des discussions puis peut-être trouver des solutions. Puis tu parlais des coûts de loyer. C'est des chiffres qui ont été sortis par l'Observatoire du Grand Montréal qui touche toutes les régions métropolitaines en Amérique du Nord. Sur la disponibilité des logements. En 42e puis en 43e position en Amérique du Nord, t'as Montréal puis t'as Québec. Parce qu'on parle de taux d'occupation qui sont corrects à Montréal, là, c'est quelque part à 3,1 %, ce qui est considéré comme étant le seuil d'équilibre. Ça veut dire que t'as suffisamment de logements pour que personne ne se retrouve à la rue. Le FOC, il n'est pas dans la disponibilité, il est dans le coût. Et dans le texte, on nous dit qu'un logement de deux chambres, donc un 4,5, tu sais, 4,5, là, que tu sois un couple ou une famille avec un enfant, deux enfants, c'est à peu près ça le minimum que tu as besoin
minimum,
comme espace.
Ouais. Parce qu'à tes demi, tes deux enfants dorment dans la même chambre, ouais. Là, si tu as deux enfants. Là.
1920$
c'est
par
incroyable.
Mois. Parce qu'actuellement, c'est la mairesse de Montréal qui le disait en point de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui, elle dit c'est pas une crise du logement, c'est une crise de l'abordabilité. Puis dans la région de Québec, c'est la même foutue affaire, mm-hmm. parce que tu as parlé des flips tantôt. Mm-hmm. Tu sais, ceux qui se pognent un petit bloc pas trop cher, qui font ce qu'on a appelé pendant un bon bout de temps des rénovictions. Mm-hmm. Ils vont pimper leur bloc puis ils vont avoir le loisir de monter le
loyer.
Oui,
puis ils vont
avoir
des locataires peut-être plus à leur goût aussi. Parce ouais. que, tu sais, il y a ça aussi, il y a des propriétaires qui veulent un type de locataire ouais. bien particulier. Mais tu sais, on dit que ce n'est pas une crise du logement. Il y a assez de logements disponibles. Je voyais un article de la presse la semaine passée, 25 000 logements vides.
Oui.
À Montréal.
Parce qu'on les charge tellement cher,
c'est trop cher
qu'on est capable, avec les coûts de loyer des autres, ouais. de vivre avec le fait mais... que des logements soient vides puis qu'on n'ait pas de revenus avec ceux-là.
Et il y en a aussi qui ne sont pas habitables en ce moment pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il y a des propriétaires qui n'ont plus les moyens
c'est ça,
de rénover
de
leur
rénover.
Logement.
Aussi, puis en même temps, 25 000, c'est beaucoup, mais au prorata de la population, est-ce qu'on l'a, cette information-là? T'sais, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est 25 000 loyers de trop qui sont inhabités
si
en ce moment?
Si c'était disponible demain matin et qu'on envoyait des gens puis qu'il n'y avait pas d'enjeu de prix, là? Ça réglerait quand même une partie de la crise du logement. Mais je pense qu'il faut continuer de se creuser le coco pour trouver des solutions absolument. Moins mur à mur. Parce que, puis il y a vraiment un débat en ce moment sur est-ce que la propriété et les logements, ça doit être ça, le principal véhicule pour construire notre patrimoine puis pour investir. Tu sais, moi, c'est sûr, je regarde la génération de mes parents, bon, ma mère, elle a acheté un triplex. Là, c'était 30 000 $ le condo là, à l'époque.
Ouais,
mais
c'est
les taux d'intérêt étaient à 15 % aussi. Oui, là, c'est une autre game. Mais c'est sûr que moi, je regarde ma mère. Pour elle, ça a été un vecteur d'avancement social. Là. Elle n'est pas devenue riche puis véreuse tout à coup, mais c'était ça. Ça, je pense qu'il faut faire attention quand même de donner la chance aux gens, à un moment donné, de se construire un patrimoine. Mais les flips... De transformer plein de logements en Airbnb, par exemple. Ouais. Que ce soit la course à ce qui est le plus payant, moi, je pense que ça prend des incitatifs pour qu'on ait des bons propriétaires.
Ouais, pis,
faut encourager ça.
Puis éviter de ghettoiser aussi les quartiers. Parce que, tu sais, à un moment donné, si on a tous les appartements à loyer modique au même endroit, ça non plus, c'est pas une bonne chose. Mm. Ça, c'est important de faire ça aussi, de s'assurer que... Pis,
Qu'il y a une mixité,
puis ces gens-là ne disparaissent pas. Puis ça, moi, je l'ai vécu quand j'étais petit. Quand on a défait le toit du Maille-Saint-Roch,
oh oui.
ces gens-là ont migré puis ont déménagé oh, vers le bas de Limoilou.
Viens-tu du quartier Saint-Roch?
Moi, je viens de Limoilou.
OK, moi, je viens de Saint-Roch. Je suis née là. Je me rappelle du Maille.
Le
oui.
Maille-Saint-Roch. Puis moi, je me souviens, le Maille-Saint-Roch, après 5 heures, j'avais pas le droit d'aller jouer là.
Non.
Il n'était pas question que je rentre dans le Maille. C'était non. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé quand le toit du Maille s'est défait? Les gens qui avaient besoin du Maille-Saint-Roch ont migré vers le bas de Limoilou.
Ouais.
Puis après ça, il y a eu une deuxième migration quand M. Lallier est arrivé avec le projet du Nouveau Saint-Roch. Il y a eu une grande migration vraiment importante du côté de Vanier par la suite. Ces gens-là ne disparaissent pas parce que vous rénovez un appartement puis vous en faites un beau Airbnb puis votre loyer est rendu à 1 800 $. Ces gens-là ont besoin d'avoir un toit sur la tête aussi,
ouais.
puis de s'attaquer tout le temps aux riches, ce qui est une mire, là, une cible pour Québec solidaire n'est peut-être pas la meilleure solution.
Ben, c'est
alors
que leur définition de riche aussi, je la trouve un petit peu trop inclusive.
Ben, c'est parce que les gens, comme
c'est
on
quoi,
disait tantôt, ben, l'exemple qu'on donnait du couple qui a investi toute sa vie dans un duplex ou un triplex, puis il a l'objectif de le vendre, puis de faire un profit de 5, 6, 700 000 $ pour se dire, regarde, on se casse pas la tête, c'est réglé
c'est
après
ma retraite.
Ça. On va pouvoir aller en maison de retraite, on va pouvoir voyager, faire le tour du monde comme on a toujours rêvé.
C'est pas pareil que quelqu'un qui fait 25 flips, là.
Ben non, c'est ça. Puis ça, c'est rentré par texto aussi. Ouais. Les gens semblent oublier à quel point c'est une deuxième job à être propriétaire
ouais.
aussi, parce que tu peux te faire
c'est
appeler...
C'est pas comme si t'avais une PME, là.
Ben non, tu peux te faire appeler le samedi à midi, là, pour te faire dire que l'évier de la salle de bain vient de casser, puis là, l'eau coule partout, tout bord, tout côté, puis ou tomber face à face avec un loyer qui a été complètement démoli parce que tu viens d'annoncer justement
ouais,
à ton locataire que...
C'est pas juste beau à tous les jours,
ça,
là.
C'est pas tout le temps simple,
mais
là, c'est une
dire,
job, là.
Je dois dire, dans les textos, c'est assez varié les opinions, puis il y a quand même pas mal de gens qui pleurent pas sur le sort des propriétaires. Aussi, là, il y a une bonne partie des messages qui rentrent qui sont d'accord avec la proposition de Québec solidaire et qui disent que c'est une question d'équité. Parce que quand on a une entreprise, ou bien nous, là, c'est nos revenus au complet généralement sont imposables, mais on a des déductions aussi.
Oui, c'est ça.
Il y a des choses qui sont déduites. Donc, je pense que le portrait est plus nuancé que certaines personnes peuvent le croire.
On est peut-être allé trop fort tout de suite alors qu'on aurait pu nuancer cette proposition-là.
Mais ils savent bien, les gens, qu'on finit toujours par nuancer, qu'on apporte toujours les deux côtés de la médaille.
Il faut, c'est notre travail. Hey, un petit tour dans la circulation parce qu'effectivement, on va faire remarquer que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas fait déjà.
Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Merci au collègue Mathias Turcotte qui me donne cette information-là. Dans le secteur de Beauport, il y a eu une collision entre un cycliste et un automobiliste. C'est à l'intersection de l'avenue des Sablonnières et de la rue Louis-Philippe Roy. Les deux rues qui sont actuellement fermées à la circulation dans le secteur. Le cycliste qui a été transporté par ambulance. On parle de blessures graves sans donner plus de détails. Tout ça s'est déroulé au tournant de 13 heures. C'est très compliqué dans la circulation au moment où on se parle, particulièrement dans le secteur de l'autoroute 40 en direction est. C'est un accident qui a eu lieu un petit peu plus tôt, alors qu'au moment où on se parle, c'est deux voies qui sont bloquées, celle du centre et celle de droite, entre la route Jean-Gauvin et l'avenue Legendre. Les services d'urgence qui sont sur place, ça fait une quarantaine de minutes déjà que ça dure et c'est au rouge très, très, très foncé dans ce secteur-là. On a l'accès au pont qui est un petit peu lent. On a Capitale en direction est qui est ralenti à la hauteur de Robert Bourassa. Ça se résorbe, somme toute, assez rapidement. Alors qu'en direction ouest, c'est vraiment dans le secteur entre Beau-Royal, en fait, puis le coin de Henri Bourassa. Puis je vous dirais même Laurentienne, où ça va être très, très lent. Sur la rive sud, le secteur des travaux sur la 20, entre autres, en direction ouest, bien au ralenti dans ce coin-là. Alors qu'en direction ouest, c'est vraiment quand vous allez sortir là, dans le secteur de l'avenue des Églises, où ce sera beaucoup plus lent.
Si vous voyez quoi que ce soit d'autre et que vous le pouvez, 971-1021. Le retour.